France Culture.
France Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. Direction Londres du 19e siècle. Mais en fait, nous allons quitter très vite Londres pour l'Italie. Vous savez, le voyage à Rome, c'est un classique littéraire. Sauf que là, nous sommes à l'enseigne du merveilleux. Un jeune Anglais, peu préparé au crépuscule du Sud, eh bien, il va lui arriver des tas d'aventures et le crépuscule sera rouge sang. Après l'Italie, ce sera la Grèce. Rouge sang également. Rediffusion d'une dramatique proposée pour la première fois sur France Culture le 6 février 1965.
À l'enseigne du merveilleux, une émission de Géraldine Gérard.
Amis du merveilleux, nous vous proposons ce matin Le Vampire, un conte attribué à Lord Byron et recueilli par son secrétaire Polidori.
Il y avait à Londres, au début du siècle dernier, un gentilhomme nommé Lord Roosevelt, et qui fréquentait assidûment les salons de la haute société. On connaissait mal son origine, mais il était beau, cultivé, et sa séduction, un peu inquiétante, agissait sur les hommes autant que sur les femmes. Plusieurs ladies, avides de succès, tentèrent d'attirer ses hommages, mais il restait indifférent à leur charme et se rapprochait toujours des femmes vertueuses et des pures jeunes filles.
Vers la même époque arriva un jeune homme d'excellente famille, Daniel Aubrey. Ayant perdu ses parents dès sa première enfance, il partageait avec sa sœur une immense fortune. Abandonné à lui-même par son tuteur, qui ne s'attachait qu'à bien gérer son argent, Daniel, qui était d'une nature tendre et romanesque, possédait plus d'imagination que de jugement. En résumé, il ne connaissait absolument rien des réalités de la vie mondaine.
Dès qu'il rencontra Lord Roosevelt, il lui voua une admiration sans bornes et le para de toutes les qualités possibles. Sa joie fut grande quand un soir, le mystérieux gentilhomme s'approcha de lui en souriant.
Daniel, je pars dans quelques jours pour un long voyage d'affaires à travers l'Europe. Voulez-vous m'accompagner?
Quoi, Lord Roosevelt? Vous m'accepteriez comme compagnon de route?
Je ne vous accepte pas, Daniel. Je vous choisis de préférence à tout autre. Qu'en dites-vous?
Ah, je dis, Lord Roosevelt, que vous ne pouviez me procurer un plus grand plaisir.
Alors, vous viendriez?
Il faut que je demande l'autorisation à mon tuteur, puisque je ne suis pas encore majeur. Je suis certain qu'il me donnera cette permission, car il pensera qu'un jeune homme de mon âge ne peut que gagner en la compagnie d'un homme de votre culture et de votre valeur morale.
Le tuteur de Daniel Aubrey se laissa facilement persuader de l'utilité de voyager pour un jeune homme de la fortune et du rang de Daniel. 15 jours plus tard, Lord Roosevelt et son compagnon franchissaient le détroit. Pendant quelques semaines, le jeune homme alla d'enchantement en enchantement.
Lord Roosevelt était un guide précieux qui connaissait toutes les beautés des anciens mondes et savait les faire apprécier à un jeune gentilhomme sensible et intelligent comme Daniel. Il était généreux jusqu'à la prodigalité. Daniel remarqua pourtant avec un certain déplaisir que son compagnon, qui n'hésitait pas à jeter l'or dans la main tendue du mendiant paresseux et du joueur, faisait éconduire durement l'homme malchanceux qui venait solliciter une aide qui lui aurait permis de rétablir la situation de sa famille.
Cependant, Aubrey, attribua cette attitude à l'insistance importune du débauché qui l'emporte en général sur la timidité du pauvre honteux.
That's true.
Comment?
Chut, il a dit c'est vrai. Chut, silence, grand-père.
À Rome, Lord Ruthven se mit à fréquenter les salons d'une comtesse fort connue dans l'aristocratie romaine. Mais Daniel apprit qu'il faisait la cour non à la mère, mais à la fille, qui sortait à peine du couvent.
En Italie, les jeunes filles
vont rarement
dans le monde
avant leur mariage.
Daniel Aubray sut, par hasard, que la jeune fille avait accepté un rendez-vous nocturne chez Lord Roswell.
Oh ! Il n'hésita pas à questionner son ami.
Lord Roswell, répondez-moi franchement, s'il vous plaît.
Quel ton sévère, mon cher Daniel. Posez-moi cette question, mais je ne vous promets pas d'y répondre.
Est-il exact que la fille de la comtesse Sanforia doit se rendre dans votre appartement cette nuit?
Oui. Cette jeune et jolie personne a accepté mon invitation.
Mais elle ne sait pas qu'elle sera compromise à tout jamais.
Ça, c'est son affaire. Je ne l'ai pas obligée à accepter mon rendez-vous.
Sans doute, mais vous l'avez fascinée par votre personnalité. Elle est jeune, inexpérimentée. Du moins, avez-vous sans doute l'intention de l'épouser?
L'épouser? Et pourquoi? Mon cher Daniel, si j'avais dû épouser toutes les jeunes filles dont j'ai été l'amant, mon harem serait plus considérable que celui du sultan Shahriar.
Ainsi, vous n'avez aucune intention de réparer les torts que vous allez causer à une jeune fille imprudente et ignorante. Votre conduite est inqualifiable.
Daniel, vous êtes trop jeune pour me donner des leçons.
Peut-être. Mais j'ai assez de raisons pour comprendre que je ne puis rester plus longtemps en la compagnie d'un homme tel que vous sans me dégrader. Séparons-nous et poursuivons notre voyage chacun de notre côté.
Comme il vous plaira, Daniel.
Aubray se rendit aussitôt chez la comtesse Sanforia. Il lui révéla les intentions de Lord Ruthven et l'on put mettre obstacle au rendez-vous projeté.
Puis, écœuré, le jeune homme quitta Rome et se rendit à Athènes. La Grèce l'enthousiasma.
Sur la recommandation de l'ambassade anglaise, il avait été accepté comme pensionnaire dans la famille d'un professeur dont l'habitation était située dans un site admirable, un peu en dehors de la ville. La fille de la maison, Iante, était belle, intelligente...
Et cultivée.
Ah. Daniel ne tarda pas à tomber amoureux de l'exquise créature. Quand il lui avoua son amour et lui demanda d'être sa femme, elle accepta, et ses parents approuvèrent son choix.
Or, un soir...
Il annonça à sa fiancée son intention d'aller le lendemain visiter des ruines situées aux environs d'Athènes.
Daniel, mon bien-aimé, je vous en prie, rentrez avant la nuit si vous ne voulez pas m'inquiéter.
Pourquoi cela, ma chérie? Craignez-vous que je me perde? Comme les enfants des contes de fées.
Je ne crains pas que vous vous perdiez, mais que vous soyez victime des vampires. Ils se réunissent la nuit, non loin d'ici.
Chérie, comment une jeune fille comme vous peut-elle croire de pareilles fables?
Hélas, ce ne sont pas des fables. Ces monstres existent véritablement. Il y a eu dans ma famille des gens qui en ont été victimes.
On vous aura raconté tout cela pour vous effrayer quand vous étiez petite.
Ne vous moquez pas, Daniel, je vous en supplie. Et jurez-moi de rentrer avant la nuit.
Soit, mon amour. Je vous le jure. Êtes-vous contente?
Vous n'oublierez pas. Vous ne vous laisserez pas surprendre par la nuit. Vous savez qu'elle tombe très vite chez nous en Grèce.
Je rentrerai, Iante, non par crainte des vampires, mais pour vous retrouver plus tôt. Bonne nuit, ma chérie. Vous dormirez encore quand je partirai demain matin.
Mais le jeune Anglais n'était pas habitué à ces pays du Sud, dans lesquels le crépuscule n'existe presque pas.
Mon Dieu, je me suis laissé surprendre par la nuit, malgré ma promesse. Iante va être inquiète. Elle croira que je n'ai tenu aucun compte de sa prière. Il faut rentrer maintenant, le plus vite possible. J'espère que je ne vais pas m'égarer. Je ne crois ni aux fantômes, ni aux vampires. Cependant, je dois avouer que cet endroit est plutôt sinistre. J'ai hâte de le quitter. Une femme. Une femme en détresse. On est en train de l'assassiner. Ces cris! Mais d'où viennent-ils? Là! En bas à droite! À l'aide! À l'aide! À l'aide! On mettra mon... À l'aide! On m'assassine! À l'aide!
Vite! Allons, vite!
On est en train de commettre un meurtre!
Passez devant avec les torches.
Je n'entends plus rien.
Mais ça ne fait rien, grand-père. C'est là. Éclairez-moi.
Oui.
Oh. Un homme. Il est mort.
Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Someone tried to murder me.
C'est un étranger.
Un Anglais, je crois.
Ah, parlez-vous grec?
Oui, un peu.
En grec?
On a essayé de m'assassiner.
Les assassins se sont enfuis.
Il n'y a plus personne ici. Savez-vous s'ils étaient plusieurs?
Non. Un seul, je crois. D'abord, il y a une femme qui a crié. J'ai voulu aller à son secours. Alors, un homme m'a jeté à terre. Il m'aurait étranglé si vous n'étiez arrivé. Mais la femme, qu'est-elle devenue?
Venez, nous allons la chercher.
L'agresseur l'a peut-être enlevée?
Regardez! Là! Il y a un corps! Une femme!
Oh. Elle est morte.
Iante. C'est Iante. Elle est couverte de sang. Sa gorge est ouverte. Iante. Iante.
L'assassin a laissé le fourreau de son poignard à côté de sa victime.
Je reconnais l'insigne qui orne ce fourreau. C'est celui des vampires.
Iante. Iante, ma bien-aimée. Morte. Morte, c'est impossible.
Oh!
À la suite de cette horrible tragédie, Daniel Aubrette tomba gravement malade. Il fut pris d'une fièvre violente qui le fit délirer pendant des jours. Quand il entra en convalescence, il vit, assis près de son lit, un homme.
Lord Redswell.
Oui, Daniel. Je suis arrivé à Athènes il y a quelques semaines. J'avais su par un de mes amis qui vous y avait rencontré que vous habitiez ici. Quand j'ai appris que vous étiez malade, je me suis installé à votre chevet pour vous soigner.
C'est donc vous, véritablement, que j'apercevais dans mon délire.
C'était moi. Vous savez, Daniel, que malgré les dures paroles que vous m'avez dites à Rome, je n'ai cessé d'avoir pour vous une profonde affection. D'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi depuis que vous m'avez quitté, mon jeune ami. J'ai eu honte de ma conduite et je l'ai profondément regretté. C'est vous, vous qui aviez raison.
Oh, Lord Rothwell, que je suis heureux de vous entendre parler ainsi.
Daniel, voulez-vous que nous soyons amis comme par le passé?
Avec joie.
Alors donnez-moi votre main. Nous ferons ensemble de longues promenades. Elles vous aideront à rétablir votre santé.
Le lendemain, ils quittèrent Athènes et ses environs, où Daniel avait trop de mauvais souvenirs, et ils foncèrent avec une petite troupe de guides qui les conduisirent dans des régions superbes et peu fréquentées par les touristes.
Mais un jour, une balle de pistolet venant d'on ne sait où atteignit Lord Rothwell. On le transporta dans une cabane dans la montagne. L'état du blessé empira rapidement.
Quand il comprit qu'il allait mourir, il saisit la main de Daniel Aubrey et le regarda avec angoisse.
Daniel, secourez-moi. Vous pouvez me sauver.
Lord Rothwell, je vous suis tout dévoué.
Vous pouvez sauver mon honneur. L'honneur de votre ami.
Je ferai tout pour cela. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Je demande bien peu. La vie m'abandonne. Si vous vouliez, pendant une année entière, ne révéler à personne ce que vous savez de moi, les mauvaises actions que vous m'avez vu commettre, mon honneur serait sauvé.
On ne saura rien, Lord Rothwell. Je vous le promets.
Ce n'est pas tout. Jurez-moi de ne parler à personne de ma mort. Qu'elle reste ignorée en Angleterre. Jurez que vous ne révélerez à aucun être vivant ni mes crimes ni ma mort. Jurez, Daniel, jurez.
Je le jure.
Eh oui. Dès que Lord Rothwell eut expiré, Daniel Aubrey se sentit envahi d'une angoisse épouvantable. Tous les événements qui avaient marqué ses relations avec cet homme singulier revinrent à son esprit.
Lorsqu'il se rappela le serment qu'il venait de faire, un frisson glacé le parcourut sans qu'il s'expliquât pourquoi.
Il pria ses guides d'aller au plus vite au village voisin pour y chercher une civière afin de ramener le mort. Puis, fatigué, il alla s'étendre et s'endormit.
Il ne se réveilla qu'au retour des guides. Mais lorsqu'ils se rendirent auprès du corps, ils s'aperçurent qu'il avait disparu.
Non !
Toutes les recherches furent vaines.
Tonne.
Daniel, bouleversé, descendit au village. Il alla dans la chambre de Lord Rothwell pour mettre en ordre les affaires du mort.
Les affaires du mort ?
Chut !
Dans moi, un coffre, on trouva un poignard ! Un poignard !
Grand-père, au lit.
Grand Dieu ! Le fourreau que j'ai trouvé près du corps d'Iante est du même style que ce poignard. Mais il n'y a pas de doute. Ce sont les mêmes ornements, les mêmes initiales. Ce poignard et ce fourreau s'adaptent. C'est ce poignard qui a servi à tuer ma fiancée.
La découverte que venait de faire le jeune homme le remplit d'épouvante. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Lord Rosfell était l'assassin de sa fiancée. Alors il n'eut plus qu'une idée, retourner en Angleterre.
Il gagna en hâte le domaine familial. Il lui semblait que là, il trouverait enfin le calme et le bonheur.
Sa sœur avait terminé son éducation. Elle vivait au château sous la garde de sages gouvernantes.
Daphné était une jeune fille timide, mais la joie de revoir son frère la rendait bavarde.
Et lui expliqua que son tuteur l'avait déjà conduite dans le monde.
Mais dorénavant, j'espère bien que c'est toi qui me serviras de chaperon.
Avec joie, petite sœur.
Nous sommes invités à un grand bal ce soir. Il faut que tu y viennes. Et puis, je vais te confier un secret.
Un secret? Ah! Est-ce que ta poupée va épouser Mr. Punch?
Oh, cesse! Cesse de te moquer de moi, Daniel! Ou je ne te dirai plus rien.
Mais ne te fâche pas, dis-moi ton secret.
Il y a un très beau gentilhomme qui me fait la cour.
À toi? Mais tu n'es encore qu'une petite fille.
Daniel! J'ai 18 ans, tu as l'air de l'ignorer.
Et depuis quand connais-tu ce beau seigneur?
Depuis un mois. Il a déjà quelques cheveux gris sur ses tempes, mais il n'en est que plus beau. Et il est si distingué. Il a voyagé à travers toute l'Europe. Il connaît l'Italie, la Grèce, comme toi.
Il y avait nombreuses assistances au bal auquel étaient conviés Daniel et Daphné à Aubray. Toute l'aristocratie de Londres et les environs y assistaient. La jeune fille entra au bras de son frère. Mais presque tout de suite, elle fut entraînée par un dessein de jeune fille de son âge.
Et Daniel resta seul au milieu de la foule.
Ah. Tout à coup, il se sentit saisi par le bras.
Souvenez-vous de votre serment.
C'est pas possible. Lord Rosfell.
Souvenez-vous de votre serment.
Ah, ça ne peut être vrai. Mais il n'est pas ressuscité. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je ne vois plus. J'ai rêvé. Oui, c'est stupide. J'ai rêvé. Daphnéa, là-bas, semble bien entourée. Elle est engagée dans une conversation animée. Avec qui peut-elle parler ainsi? Je vais voir.
Il fit un effort sur lui-même pour oublier ce qu'il prenait pour une hallucination et tenta de se frayer un passage pour rejoindre sa sœur. Un homme grand et mince se penchait sur Daphnéa. L'homme se retourna. C'était Lord Rosfell. Oh. Oh. Terrifié, Daniel s'élança vers sa sœur, la saisit par la main et l'entraîna vers la sortie de la maison.
Enfin, Daniel! Daniel, pourquoi m'entraînes-tu avec cette précipitation? Mais qu'est-ce que tu as? Tu es devenu fou! Quelle façon!
Je me sens malade, Daphnéa, rentrons!
Mais il faut au moins prendre congé de la maîtresse de maison.
Non, je t'en supplie, rentrons! Je me sens très souffrant.
Comme tu es pâle.
Daphnéa, il ne faut plus que tu vois cet homme qui te parlait en se penchant vers toi. Il ne faut plus le voir.
Mais c'est mon beau seigneur.
Ne lui adresse plus jamais la parole. Jamais. Je te le défends, entends-tu?
Mais pourquoi, pourquoi?
Tu ne sais pas qui il est.
Souvenez-vous de votre serment.
Oh!
Souvenez-vous de votre serment.
Oh! Oh.
Souvenez-vous de votre serment.
Eh oui. Daniel sentit qu'il perdait l'esprit. Partout où il se rendait avec Daphnéa, il voyait Lord Roswell. Il voyait sa sœur lui sourire. Prisonnier du terrible serment dans lequel il avait engagé son âme, il ne dormait plus. Il ne pouvait presque plus prendre aucune nourriture. Bientôt, il s'affaiblit et ne put plus quitter son lit. Comme sa sœur s'approchait tendrement de lui, le suppliant de manger un peu, il lui saisit les mains avec violence.
Oh, Daphnéa ! Daphnéa ! Si tu as de l'affection pour moi, je t'en supplie, ne t'approche pas de lui ! Ne t'approche pas du monstre !
De qui veux-tu parler, Daniel ?
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Souvenez-vous de votre serment.
Ses propos paraissaient tellement incohérents que sa sœur et son tuteur crurent qu'il devenait fou. Ils firent venir un médecin qui resta attaché à sa personne.
Parfois, il restait plusieurs jours dans un état de prostration dont rien ne pouvait le tirer. Il ne s'animait que lorsque Daphnéa était près de lui.
Alors, il la suppliait de ne plus voir cet homme. Mais le médecin déclarait que ses propos étaient un signe certain de démence. Pourtant,
parfois, il sortait de son incohérence pour demander la date de l'année, et au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, il semblait se calmer, et quelquefois, un léger sourire venait éclairer sa figure décharnée.
L'année fatidique était sur le point de finir, quand Daphnéa, entrant dans la chambre du malade, se pencha sur lui pour l'embrasser.
Daniel, chéri, il me semble que tu vas mieux aujourd'hui. Tu as meilleure mine. Mon grand frère, je viens t'annoncer une grande nouvelle. Notre tuteur te la confirmera tout à l'heure. Mais j'ai voulu être la première à te la dire. Je vais me marier.
Te marier? Et comment se nomme ton fiancé?
Le comte de Martzen. Il faut que tu te dépêches de guérir pour assister à mon mariage.
Je te le promets. Je suis content de cette nouvelle. Viens m'embrasser, Daphnéa.
Quelle joie de te voir affectueux et sensible comme autrefois. Sais-tu qu'il y a presque une année entière que tu es malade?
Daphnéa, quel est ce portrait dans ce médaillon que tu portes à ton cou?
Mais c'est le comte de Martzen, mon fiancé.
Non, non, il ne faut pas que tu l'épouses. Je t'en supplie, ne l'épouse pas, c'est impossible, impossible.
Oh, Daniel, Daniel, te voici repris de ta maladie, tu délires.
Il faut que tu m'écoutes, il faut que tu m'écoutes. Cet homme n'est pas le comte de Martzen. Il faut me croire, Daphnéa, il faut me croire. Cet homme, c'est...
Souvenez-vous de votre serment.
Oh, mon Dieu.
Calme-toi, Dieu. Daniel, calme-toi. Je vais envoyer ton médecin auprès de toi.
Un instant, écoute-moi encore un instant, Daphnéa, je t'en supplie. Retarde ton mariage d'un jour, seulement d'un jour, fais-le par amour pour moi.
C'est un enfantillage, Daniel. La date est fixée. Les invitations sont faites. On n'y peut rien changer. Calme-toi. Tâche de dormir, je vais te laisser seule.
Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ne viendrez-vous pas à mon secours? Sauvez ma sœur.
Dieu ne sauvera pas votre sœur, Daniel.
Lord Roswell, au nom de l'amitié qui nous a unis un moment, je vous en supplie, renoncez à Daphnéa.
Jamais. Vous avez contrecarré mes projets à Rome en m'empêchant de séduire une jeune fille. J'ai juré de me venger et votre sœur sera la victime. Car quand l'année sera terminée, je serai obligé de retourner à l'au-delà auquel j'appartiens. Et j'entraînerai votre sœur dans la mort. Daniel Aubrey, oh. Votre sœur est perdue.
Oh non!
Souvenez-vous de votre serment.
Le matin des noces
arriva. Tous les domestiques étaient occupés à préparer la réception. Le médecin devait être un des témoins de la mariée.
Et l'on avait seulement laissé une vieille femme au chevet du malade.
Les cloches.
Elles sonnent le mariage de votre sœur, monsieur.
Quelle date sommes-nous ?
Le 17 septembre, monsieur.
Le 17 septembre. Il y a un an. Un an, tout juste, que Lord Roosevelt est mort. Laissez-moi sortir. Laissez-moi aller au mariage de ma sœur.
Je ne peux pas, monsieur, je ne peux pas. Vous êtes trop faible. Vous ne pouvez pas vous lever.
Laissez-moi sortir. Laissez-moi.
Daniel avait bondi hors de son lit. Il avait bousculé la vieille femme.
Et en vêtements de nuit, il s'était précipité hors du château.
La chapelle était dans la cour.
Il entra comme un bolide. Le prêtre était en train de poser la question rituelle.
Mademoiselle Daphné Aubray, consentez-vous à prendre pour époux...
Non ! Non ! Non, ce mariage est impossible ! Cet homme n'est pas le comte de Martin ! Cet homme est le fantôme de Lord Roosevelt ! C'est un monstre redoutable ! Un vampire ! J'étais lié par un serment, mais la date expire aujourd'hui ! Il n'a plus de droit sur moi !
L'assistance terrifiée regardait Daniel, que son médecin tentait de maîtriser.
Épuisé, le jeune homme s'était évanoui.
On le transporta au château. Daphnéa sanglotait.
Mais quand l'affolement général fut calmé, on s'aperçut que le marié avait disparu.
Et jamais on ne le revit.
Chut, c'est fini.
Comment ?
C'est fini. C'est le générique.
Ah, pardon.
C'était À l'enseigne du merveilleux, une émission de Géraldine Gérard qui vous a présenté aujourd'hui Le Vampire, d'après un texte attribué à Lord Byron, avec Jeanne Ardenne, Edith Loria, Sylvie Hartel, Yves Vincent, Guy Bousquet, Jean Péméja, Jean-Pierre Lituac, Maurice Nazil, Nicolas Amato et Robert Moffra. Post-scriptum, avec Jean-Luc Bidot et également Jacques Champreux.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 février 1965.